Melody, la radio vintage forever.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Melody Radio en compagnie d'une immense star de la télé, une personne.
C'est gentil.
Ah bah oui, une personne que l'on aime, Denis Fa, bonjour.
Bonjour Gilles. Merci de m'inviter.
Ben merci
Très
d'être
gentil.
Venu nous voir chez Melody Radio. Vous étiez il y a quelques instants à la télé,
Melody
tout s'est bien
TV,
passé.
Absolument, mais écoutez, Jean-Pierre Pascolini m'a fait l'honneur de me fêter mes 60 ans de carrière cette
60
année.
Ans.
60 ans, vous imaginez, c'est fabuleux.
Ah
donc,
ouais.
Tout d'un coup, j'ai pris conscience de beaucoup de choses.
Ouais.
Et d'ailleurs, il diffuse sur Melody TV le feuilleton que j'ai tourné en 1971.
En 1971,
oui,
quand vous arrivez sur la première chaîne.
Absolument. Non, je suis arrivée en 64. Non, en 71, la première chaîne, vous avez raison.
Oui.
64, c'était l'arrivée, parce que moi, je suis arrivée avec la couleur, avec la deuxième chaîne.
D'accord.
Et 71, c'était l'arrivée sur la première chaîne, parce que Pierre Sabag, qui était le mari de Catherine Langer à l'époque...
Ancienne
speakerine, avait pris la direction de la première chaîne, non, de la deuxième chaîne, et il a demandé à ce que sa femme le rejoigne. Et moi, Jean Drucker, qui est le frère de Michel Drucker, est venu me dire, écoutez, Denise, tu as été choisie pour aller sur la première chaîne, rejoindre toutes ces dames de la télévision, Jacqueline Cora, Jacqueline Huette, Catherine partait sur la deuxième. Il y avait encore Anne-Marie Pesson qui n'était pas encore partie à RTL. Non, c'était formidable, mais moi, je l'ai très mal pris.
Okay.
Parce que c'était du noir et blanc, et j'étais arrivée avec la couleur, et pour moi, la couleur, c'était l'avenir.
Et vous vous repassiez sur,
voilà,
sur la première
sur
chaîne.
Et voilà, je passais sur le noir et blanc. Et j'avais tout juste 21 ans.
Et vous avez commencé sur Télé Monte Carlo ?
Oui.
À 19 ans comme speakerine ?
Oui.
Et comment
absolument.
Vous avez eu envie de faire ce métier ? Et comment êtes-vous arrivée à tout, Télé Monte Carlo ?
C'est par hasard.
Par hasard, ok.
Par hasard, parce que j'avais une de mes amies qui se présentait, cherchait des speakerines à Télé Monte Carlo.
Oui.
Et cette amie qui avait un trac fou... me dit, c'était ma meilleure amie, et elle me dit, Colette, elle me dit, écoute, viens avec moi, parce que ça, j'ai très très peur, accompagne-moi. Alors moi, toute la famille, tout le monde, tous les amis étaient déjà en train de préparer tous les bulletins pour elle, c'est elle, parce qu'il fallait qu'ils en choisissent une sur une douzaine à peu près. Et je l'accompagne à Monte Carlo, et là, coup de foudre,
ouais.
Immédiat, entre Colette et le directeur des programmes, qui venait juste dire bonjour, mesdemoiselles. Coup de foudre, moi je suis témoin de ça. En fait, elle n'a jamais été speakerine, elle s'est mariée, elle est devenue sa femme.
D'accord, et c'est comme ça que tout
c'est
a commencé.
Et c'est comme ça, tout a commencé parce que ça c'est pour elle. Et moi ensuite j'ai continué, j'ai fait des débuts de mannequin, je faisais plein de petits boulots. Et un jour elle m'a appelée en me disant, écoute mon mari cherche des speakerines, je pense que tu devrais maintenant que tu sais un peu te maquiller, t'arranger un peu là. Donc, viens te présenter parce qu'il pourrait t'apprendre le métier. Moi, j'ai mis la télévision. Attends, c'est quoi la télévision ? Parce que moi, je voyais Paris, je voyais les grandes dames, Catherine Langer, tout ça, mais j'aurais jamais imaginé.
Vous l'aviez chez vous, la télévision ?
Oui.
Ce qui est plutôt rare, il paraît, à l'époque.
Tout à fait. Et j'avais tout l'étage qui venait le voir à la maison.
À Nice ?
Oui, à Nice.
D'accord. Et donc, vous commencez sur Télé Monte Carlo et vous l'avez dit en 63. Vous montez à Paris sur la deuxième chaîne.
Fin 63.
À Noël.
Oui, à Noël.
Ça vous
absolument.
A fait quoi de quitter votre sud, votre sud pour le Paris, la grande ville, rue Cognac-G ?
15 rue Cognac-G, non. Mais moi, j'avais... En fait, j'avais été repérée par les gens de la télévision française, l'ORTF à l'époque, parce que sur Télé Monte Carlo, j'allais tout le temps au Festival de Cannes chercher des invités pour Télé Monte Carlo.
D'accord.
Ils m'ont vu là en me disant, mais pourquoi un jour vous venez vous présenter à Paris ? J'ai dit, écoutez, vous vous rendez compte, Paris, c'est... Oh, Catherine Langer faisait rêver, mais ça m'impressionnait énormément. Et ils m'ont dit, vous devriez venir, on fait un grand concours. Faites le concours, on verra bien. Et j'ai fait ce concours qui a duré un an.
Un an.
Il y a eu 3 éliminatoires. Et le dernier, c'était en décembre 63.
63.
Nous étions 12, dos à dos, toutes dos à dos, et... Je m'en souviendrai toute ma vie, parce que celle qui était avant moi a oublié, enfin, tellement le trac, elle a complètement oublié ce qu'elle avait à dire. Donc moi, je me suis retrouvée complètement perturbée. Et là, il y a eu je pense que c'est la chance de ma vie. Comme quoi, quelque part, on a envie de faire des choses, mais il y a un petit coup de pouce qui vous est donné. Et le caméraman qui était en face de moi, voyant que je perdais tous mes moyens... Vous savez, à l'époque, on donnait le top comme ça, avec le bras, on faisait
okay.
comme ça. Et il me dit, okay. Et merde. C'est merde, dans nos métiers, ça porte
bon
bonheur.
Bon courage,
ça porte bonheur. C'est le mot fatidique. Donc ça m'a fait éclater de rire, parce qu'évidemment, je ne m'attendais pas à ça. Et là, j'ai pu donner mon texte. C'est passé comme ça et j'ai été engagée.
Vous avez été engagée.
Et j'ai été engagée. Fin décembre, on me l'a appris.
Et vous rentrez à Cognac G. C'est en 1900, vous l'avez dit, fin 63.
64. J'ai fait la première annonce sur la deuxième chaîne couleur. Je crois que c'était le 14 janvier ou 4 janvier, je ne me souviens plus très bien, 64.
Et vous débutez avec un monsieur que l'on connaît bien ici aussi chez Mélodie, en même temps que Michel Drucker.
Oui.
Vous avez travaillé ensemble à cette époque-là?
Michel?
Oui.
Michel, bien, on n'a pas travaillé ensemble.
Quand vous commencez.
Mais on a commencé ensemble.
D'accord.
Tout à fait.
Lui, il était au sport, c'est ça? Et vous, vous étiez...
Oui, mais c'est-à-dire au 15 rue Cognac G, vous aviez l'étage Speakerine.
Ouais.
Vous aviez les sports au-dessus. Michel qui était là. Enfin, tout le monde était là. Vous savez, toutes les grandes stars de l'époque de Catherine Langer. De Catherine Langer, Jacqueline Cora, Jacqueline Huette, Anne-Marie Pesson. Ensuite, vous aviez Roger Coudert, Chapat. Tout le monde était là. Michel Drucker, Léon Zitrone.
Léon Zitrone.
Léon.
Dont vous racontez souvent cette anecdote. Et peut-être que nos auditeurs ne la connaissent pas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions à Denise Fabre. Je les transmettrai par nos écrans devant moi. Léon Zitrone, vous aviez pris l'ascenseur avec lui.
Mais non, mais moi, 15 rue Cognac G. D'abord, il faut dire que, vous savez, j'arrivais à Paris. J'étais une petite niçoise qui arrivait à Paris. Donc, je m'étais installée pour prendre un café avant d'y aller. Et tout d'un coup, vous voyez passer devant vous. Il faut savoir qu'à cette époque-là...
C'était une star.
Non, mais c'est pas lui qui passait. Vous voyez passer Chapat, vous voyez passer Coudert. Et puis Jacqueline Huette arrive. Ils tous avaient des lunettes noires. Je me souviendrai toute ma vie. J'étais là, je les regardais passer. Huette, tout le monde s'est arrêté de parler pour la regarder. Elle a traversé le pont, parce que c'était à l'Alma, le pont de l'Alma, pour rejoindre le 15 rue Cognac G, qui est juste une rue après.
D'accord.
Donc là, je me suis dit, mais moi je ne vais jamais arriver à tout ça, que ce n'est pas possible. Et c'est ce jour-là, pratiquement, que je prends l'ascenseur à côté de Léon Zitrone. Et normalement, cet ascenseur lui était réservé. Donc, il m'a
D'accord.
dit... Et moi, je ne savais pas.
Vous veniez d'arriver?
Je venais d'arriver. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas prendre l'ascenseur ce jour-là, peut-être, avec Léon Zitrone. Et moi, je me gouffre. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? J'ai dit, mais et vous? Moi, c'est la seule chose que j'ai réussi à lui dire, c'est et vous? Tellement j'étais surprise, alors que je prenais un ascenseur, qu'on me dise, mais qui êtes-vous, quoi?
Et vous le recroiserez plus tard. J'allais venir avec Léon Zitrone en 1978,
oui.
Quand vous animez le concours de l'Eurovision. C'est déjà, vous avez fait vous étiez la dernière présentatrice en France.
Oui.
Puisque depuis, on a malheureusement
78,
plus
78, non, on s'est arrêté. Non, on s'est arrêté. Les speakerines, c'est jusqu'en 92.
Je parle de l'Eurovision.
Ah, l'Eurovision.
Puisqu'on a pu ramener le trophée à la maison. Et vous aviez présenté avec Léon Zitrone devant 250 millions de personnes.
Spectateurs, absolument.
Et comment vous vous sentez?
Et ce que vous ne savez pas, vous, c'est que, en fait, la direction, mon directeur des programmes m'avait demandé de présenter cette Eurovision, mais il me l'a annoncé très très peu de temps, alors que j'avais déjà publié mes bans pour le mariage, et que je devais me marier à ce moment-là. Donc j'ai dû repousser mon voyage de noces, je me suis mariée.
Vous avez fait la noce avec...
avant. J'ai passé mon voyage de noces avec Léon Zitrone.
Voilà.
Mon mari a passé son voyage de noces au Palais des Congrès, comme nous, avec Léon, avec la femme de Léon
Madame
Zitrone.
Madame Zitrone, d'accord.
Et on a fait, j'ai présenté l'Eurovision. Et tout de suite après, on est parti. On n'a même pas assisté au dîner parce qu'on partait en voyage de noces tout de suite après.
Et comment on se sent devant 250 millions de téléspectateurs?
On se sent mal parce qu'il n'y a pas de prompteur. Hein.
Il n'y a pas de prompteur.
Il n'y a pas de prompteur à l'époque. Il est arrivé qu'en 1987, le prompteur.
Des États-Unis.
Non, avec Francis Bouygues et toute son équipe qui tout d'un coup ont dit on va mettre des prompteurs, ça va être plus rapide, plus facile. Parce que c'est vrai qu'on s'amusait follement entre Speakerine, à se faire des petits concours. C'est-à-dire, c'est à celle qui tiendrait le plus longtemps.
En mémoire, vous parlez des concours
par
de mémoire.
Oui.
D'accord.
Alors, c'était 4 minutes, 3 minutes, 6 minutes. Alors, j'ai fait plus que toi hier soir. C'était très drôle. Alors, ils se sont dit, non, c'est pas possible, quoi, parce que bientôt, elles vont nous faire 10 minutes pour annoncer le programme du lendemain. Donc, ils se sont dit, bon, ben voilà, on va arrêter ça.
Et oui, vous présentiez en français, Léon en anglais.
Ce soir-là pour
l'Eurovision.
Ah oui, pour l'Eurovision, oui. Ah oui, donc moi j'arrive et j'ai eu des problèmes avec ma robe, déjà.
Ah.
Ça tenait par des épingles derrière, donc il ne fallait pas que je me tourne,
ouais.
J'avais dit. Parce que c'est arrivé à la dernière minute, au moment de passer la robe, c'était une superbe robe qu'on m'avait prêtée. de chez Valentino. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et j'entre, je dis bonsoir, 250 millions de téléspectateurs et toute votre direction devant vous.
Oh là là.
Donc vous tombez, vous savez, le cœur bat. Moi, je fais mon annonce et j'annonce Léon Zitrone qui rentre. Et on devait parler français-anglais. Et lui, il arrive et il dit bonsoir en 5 ou 6 langues.
Voilà. Pour impressionner.
J'étais déjà dans les choux. Ben oui, pour impressionner, mais moi, j'étais déjà dans les choux. Et après, il n'avait de cesse que de vouloir que je me tourne pour qu'on voit mes copains de la nourrice. Donc, j'ai passé ma soirée à être comme ça, à surtout éviter de le... toujours face à lui. Hein.
Et vous en gardez un bon souvenir de cette Eurovision.
C'est une grandeur, c'est énorme. Ouais. Plus grande, vous rendez compte. Vous adressez à 250 millions de téléspectateurs, il y a un spectacle magnifique.
Et puis, on se souvient aussi de rester donc avec nous le samedi, nos auditeurs, oui. Bien sûr, s'en rappellent, et notamment de vos fous rires légendaires. Je pense aussi à Garcimore
qui était avec Douglas, vous. Absolument. C'était drôle.
Oui,
C'était drôle parce qu'il était génial, Garcimore. Oui. En fait, c'était, vous savez, aux États-Unis, il y avait un magicien qui ratait tous ses tours et il était célèbre pour ça. Et Garcimore, pareil. C'est-à-dire que lorsqu'on répétait,
oui.
Tous ces animaux lui obéissaient au doigt et à l'œil. Et au moment de l'antenne en direct, il disait un mot, je ne sais plus lequel, et pouf, ça partait dans tous les sens.
Et pouf.
Et voilà. Donc ils étaient, vous voyez, ils les avaient éduqués comme ça, quoi.
C'est fou. Et d'ailleurs, on voit vos fous rires, on vous connaît pour ça, on en a parlé.
Oui,
Jean-Pierre,
oui.
Vous avez dû vous en parler
oui,
sur Mélodie.
Oui, absolument.
Et vous n'êtes pas fait taper sur les doigts aussi.
Oui, beaucoup.
Puisque c'était très sérieux, l'ORTF. On ne pouvait pas avoir un fou rire en plein direct.
Non, c'était mal vu.
Ouais.
C'est un manque de tenue.
C'était un manque de tenue.
Oui, manque de tenue, manque de présence d'esprit. Professionnellement, c'était pas bien. Donc, j'ai eu plusieurs fous rires comme ça qui ont été très, très sanctionnés. Dont un jour en fin de journal, en 23h, avec Florence Schall.
Oui.
On a pris toutes les deux un fou rire. Le lendemain, tout le monde cherchait la cassette, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes, pour savoir ce qu'on avait raconté la veille au soir, parce que tout le monde a dit, mais celle-là, elle n'est pas encore partie dans un fou rire complet, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas possible, disait-il à la direction, ça ne peut pas continuer, il faut sévir. Alors, on m'a convoqué, moi j'ai eu 3 semaines de mise à pied.
3 semaines?
Oui, et Florence n'a plus jamais représenté le journal. Florence n'est pas revenue au journal.
Pour un fou rire. Et vous n'arriviez pas à vous contrôler? Tout le monde rigolait à ce moment-là?
Oui. Mais oui.
Et vous vous souvenez de la raison?
La raison, c'est parce qu'au moment où je prends l'antenne et où le journal est en direct, Florence était là, tout se passait bien. Mais dans la pièce à côté, il y avait tous les journalistes du sport qui fêtaient un anniversaire ou je ne sais quoi. Ils avaient un peu bu, un peu trop de champagne. Ils ont envahi le plateau. Et ils se amusaient follement. Ils nous faisaient des grimaces. Ils nous faisaient tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Et donc moi, bien entendu, je suis quelqu'un de très rieur. Donc c'est parti. Et puis Florence m'a suivie aussi parce que c'est communicatif entre toutes les deux. Et alors après, on n'arrivait plus à dire un mot. Et puis à l'époque, toute la régie... ce qui nous séparait de la régie, c'était une grande vitre.
Ouais.
Et je voyais tout le monde sous les pupitres en train de rire aussi. Donc moi, ça me faisait encore plus rire. Là.
Et c'était parti. Pour 3 semaines de mise à pied.
Et pourtant, toute la technique avait caché la cassette à la direction pendant 8 jours. Pour dire, ça va se retomber, ça va retomber, ils ne vont pas l'engueuler, quoi. Voilà. Ben, n'empêche que...
Et vous ne pensez pas que votre sympathie à l'antenne et puis d'avoir traversé tant d'années dans le cœur des Français, vous avez fait partie de la vie, de la famille de des Français.
Surtout la famille, c'est superbe.
Quand on vous croise dans la rue, on vous reparle de ces années-là.
Oui, c'est vrai. Mais longtemps, j'ai eu un courrier énorme. Ah oui, non, c'était...
Vous avez une ordre de grandeur?
Oh, c'est des sacs de courrier.
Des sacs de courrier pour vous. D'accord.
Mais oui.
Vous écrivaient.
Oui. Non, mais c'est pas... C'était... Vous savez, c'est un monde... C'est un métier. La puissance de la télévision, en plus, vous fait pénétrer dans des millions de foyers. Et moi, j'ai toujours eu à cœur d'être à la hauteur des gens qui me recevaient et de donner le meilleur de moi-même et surtout de les détendre, de leur faire plaisir, de rire, de sourire, d'être auprès d'eux... dans les moments difficiles, même si à Noël ou au jour de l'an, ils étaient seuls. Voilà,
vous preniez l'antenne ces jours-là aussi?
Ah oui.
Noël, jour de l'an.
D'accord. C'est-à-dire qu'on avait, vous savez, les plannings de Speakerine à l'époque, c'était 8h, 16h,
ouais.
Et 16h, 23h, minuit, 1h du matin.
D'accord.
Donc vous aviez plein d'annonces tout le temps entre la diffusion, parce qu'il ne fallait pas que quelque chose arrive et que personne soit là pour annoncer et pour rassurer les téléspectateurs.
Oh là là, vous étiez tellement dans le cœur des Français que la télévision est venue le jour de votre accouchement.
Oui.
J'ai vu ça en préparant cette émission.
Non, mais ça, franchement, il ne m'a pas réservé une bonne surprise, là. Qu'il est arrivé, c'était... Bon, je pense que toutes les femmes qui nous écoutent savent ce que ça veut dire quand on accouche de deux bébés, puisque j'ai accouché par césarienne. Et donc, c'est vrai que, bon, après, les enfants arrivent comme des fleurs, mais la maman met quelques jours quand même...
Pour s'en remettre.
Pour s'en remettre. Donc, lui a envoyé a envoyé tout le monde, et je les ai vus débarquer dans la chambre.
Oh là là.
Peut-être 48 heures après. Et j'étais pas fraîche, quand même.
Et il y avait des bouquets de fleurs partout, parce que j'ai vu les archives.
Oui, j'avais des bouquets de fleurs partout, mais moi, j'étais pas fraîche du tout. Et il m'avait envoyé maquilleuse, coiffeur et tout. Et il m'a appelé. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il m'a appelé en me disant, Denise, c'est pour TF1, tu dois le faire. J'ai dit, mais tu te rends pas compte dans quel état je suis? Enfin, bon. Donc voilà, puis après ça s'est traduit à l'antenne, par c'est même plus où j'étais.
Et on voit un message là, j'ai un message de Claudine Prudhomme qui nous dit « Bonjour Denise, que vous êtes belle, bonne soirée ».
Oh, c'est adorable, merci beaucoup Claudine, je vous remercie infiniment, c'est adorable.
Vous avez
c'est
aussi
adorable, je suis une grand-mère aujourd'hui, j'ai 4 petits-enfants et je suis heureuse que ce lien, vous voyez, ne soit toujours là. Ce lien que nous avons tissé ensemble pendant des années soit toujours là. Merci Claudine.
Claudine Prudhomme qui vous fait ce gentil petit
Merci.
Message.
Oui, c'est adorable.
Vous avez également fait de la radio. Vous aviez un concept d'émission plutôt intéressant.
J'avais des jeux d'abord.
Des jeux.
Je présentais un jeu entre 11h et midi. Je ne me souviens plus trop du nom parce que c'était quand même il y a longtemps. Et c'était 76, années 76, 75, 76, 77, 77 à peu près.
Ok.
Oui. Donc c'était un jeu. Et un soir où j'étais à la maison, Jean-Luc Lagardère, qui m'avait engagé sur Europe 1,
oui.
m'appelle en me disant, Denise, on a un problème. Gérard Klein, qui fait le 9h-11h, vient de nous appeler de l'aéroport. Il rejoint la femme qu'il aime. Donc, il ne sera pas là demain et nous, on entre en plein CESP.
D'accord.
À l'époque, le CESP, c'était vraiment les audiences de radio.
Mmh.
Donc, il faut absolument que vous arriviez, vous preniez l'antenne à 9h au lieu de 11h. Et demain matin, il faut être là à 9h. Donc, j'ai dit merci, je vous remercie, je serai là. Mais le lendemain matin, quand je suis arrivée à 8h30, 8h15 même, voir toute l'équipe, je n'avais aucune idée comment j'allais faire pendant 2 heures.
D'accord.
Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais tellement le trac que j'ai pris ma voiture et je crois qu'il était tôt quand même le matin, voilà, et que dans la rue, je me suis rentrée dans le dos d'une voiture et c'était une voiture de police. Donc ils sont descendus, je dis, écoutez, excusez-moi, il faut me laisser passer, je suis désolée. D'un quart.
Un quart de police.
Ils m'ont laissé passer, heureusement, ils m'ont rien dit, ils ont compris, j'allais pas vite non plus, hein. Donc, ils m'ont laissé battre. Mais je me souviens, ils m'en souviendraient toute ma vie de ça.
Belle anecdote. Et vous invitez des politiques où ces personnalités parlaient totalement d'autre chose, c'est ça?
Oui, oui, tout
à fait. Et les artistes devaient parler aussi?
Non, j'avais l'idée de proposer à la rédaction de recevoir des hommes politiques qui viennent me parler de tout sauf de politique. J'avais envie de savoir comment ils faisaient avec leurs enfants.
C'est novateur, ça. C'est pour l'époque.
Oui, tout à fait. Et j'avais Catherine Ney qui était en secours. Je me souviens dans la régie finale,
D'accord.
qui était là au cas où ces hommes politiques de Chirac à François Mitterrand à Georges Marchais glisseraient et laisseraient. Voilà,
vers
à
la
ce
politique.
Moment-là, elle serait intervenue. Mais elle a été là tout le temps, elle était formidable. Déjà, elle est formidable de toute façon. Voilà.
On a quelques autres questions. Tiens, Simon qui dit : quelles personnalités rencontrées autour de votre carrière vous ont le plus marqué ?
Oh, tous.
Tous. Vous avez aimé votre métier passionnément.
Oui, tout à fait. Parce que chacun, vous voyez tout à l'heure, avec Jean-Pierre Pasqualini, je racontais cette histoire de Julio Iglesias.
Oui.
Ça n'a rien à voir. Julio Iglesias, je tourne avec lui à Télé Monte Carlo, on fait l'émission. Ensuite, comme on avait des photos à faire, Ensuite, il me dit, je devais me changer. Comme il y avait tout un étage réservé pour lui, il y avait ses choristes d'un côté. Il m'a dit, rejoins les choristes, les maquilleuses et tout. Tu te changes là et on redescend ensemble, on fait les photos. OK. Donc, je fais ça. Je prends l'ascenseur avec lui pour redescendre. Et là, à l'étage au-dessous, arrive dans l'ascenseur, on n'était que tous les deux.
Oui.
Une femme superbe, qui le voit, qui ne voit que lui. Hein. Moi, Pimber, hein, c'est-à-dire je n'existais pas du tout. Hein. Donc, elle le voit et elle lui dit, textuellement, je l'ai vécu, hein, « Je vous adore. Et mon fiancé m'attend en bas, mais vous n'avez qu'un mot à dire, je vous suis. » Et là, il a eu cette phrase fabuleuse. Il lui a caressé la joue et il lui a dit, « Mais tu sais, je n'en vaux pas la peine. » On descend, l'ascenseur, les portes s'ouvrent, elle se jette dans les bras de son fiancé, ils sont partis.
Comme si de rien n'était.
Et moi, j'avais mon mari avec mes deux petites filles qui criaient « Maman, maman !» au cas où Rolio aurait oublié que j'étais maman déjà.
Ah, vous avez prévu le coup?
Non, mais lui, mon mari avait prévu.
Ah, votre mari avait prévu le coup?
Il m'attendait pour les photos, il savait que j'étais avec Rolio, il s'est dit « Rolio Iglesias,
oh là là, le séducteur !»
Voilà.
Alors, je n'ai pas changé.
Alors, il m'a envoyé les deux petites qui sont arrivées. « Maman, maman !» J'ai dit « D'accord. »
Et Rolio, ce soir-là, grand prince, vous a dit « Je n'en vaux pas la peine », sachant qu'il était...
Non, mais vous vous rendez compte, je veux dire, c'est fabuleux comme réponse, quand même. Oui. Et le soir même, pour terminer, on avait une soirée avec Rolio aussi, parce que du moment qu'on avait travaillé ensemble, après, il avait fait toute une table, un repas avec beaucoup, beaucoup de monde avec qui il avait travaillé, dans la journée, photographe et tout ça. Et je revois à la table d'à côté, à Monaco, cette jeune femme avec son fiancé.
Ah oui, ils étaient toujours ensemble alors.
Toujours ensemble. Bon. Mais enfin, ils ont fait semblant de ne pas nous connaître.
D'accord, bah Denise, merci pour cette belle anecdote. On a encore un petit message, là, oui. Sam qui vous dit « Oh bonjour Denise, quelle belle surprise, merci d'être sur Télémélodie. »
Ah merci, merci voilà. À vous.
Sam, alors dans les 3 minutes qui nous restent, on va évoquer rapidement une tournée magique dont vous avez été...
Tournage tendre.
La tournée tendre, la présentatrice. C'était un bon souvenir ?
Magnifique souvenir. Ouais. Magnifique souvenir parce que Michel Alguet, qui était le patron de cette tournée...
Le producteur.
Oui, le producteur, m'avait rencontré et m'avait dit « Écoutez, voilà, moi, cette tournée, pour moi, c'est très important parce que j'ai envie de donner à tous ces chanteurs qui ont débuté à une époque où peut-être ils n'ont pas eu les moyens... On ne leur a pas accordé tous les moyens qu'on donne aux grandes stars. Moi, j'avais envie de leur donner. Et ouais. ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et j'ai dit, allez, OK, je pars avec vous. Et là, on a eu tout le monde sur cette tournée. Mais bon, évidemment, après, il y avait les grandes stars, que ce soit Sheila, les uns ou les autres. Ils avaient déjà, avec Carrère et tout, elle était déjà
Bien
une
sûr.
Grande star. Mais c'était une tournée qui était magique. On faisait 2 spectacles dans la journée et on avait chaque fois dans les 5 à 6 000 spectateurs.
Vous faisiez les Zéniths ?
Oui.
C'est énorme.
Énorme.
Les personnes énorme. Qui vous suivaient. Et je me souviens, j'ai vu un extrait de l'une des tournées à Tendre où il y a Éric Chardin justement oui. qui est ému de voir ce public.
Oui.
Avec,
Mais c'est fou. C'est fou. Quelquefois, moi j'arrivais, j'étais fatiguée.
Ouais.
Et il y avait un rideau, on allait ouvrir quelques secondes après, et le rideau était un petit peu transparent. Donc les gens ne savaient pas que nous, on les voyait derrière.
D'accord.
Parce qu'ils voyaient de l'autre côté, on ne voyait pas. Et moi, je les voyais arriver. J'étais debout, j'attendais que le rideau s'ouvre et que l'orchestre commence et que le spectacle commence. Et là, je voyais des dames arriver avec leurs enfants ou leurs petits-enfants ou avec leurs enfants un peu grands quand ouais. même. Et qui était là, c'était des yeux pleins de rêves. Ça vous donnait vraiment, ça vous lavait de toute fatigue. Et on avait vraiment envie de leur donner... Enfin, moi, j'avais envie de leur donner le meilleur de nous-mêmes. C'était vraiment formidable. C'était
Toute
des moments magiques.
Toute la famille venait voir...
Oui.
Venait
oui,
voir à Tendre.
En famille. Oui, en famille. Et je me souviens à Marseille. Marseille, tournée à Tendre. On s'est retrouvés à Marseille, c'est un public extraordinaire, mais il faut qu'il soit, il vous apprécie ou pas, il faut, voilà. Et moi, je me trouve à Faune ce jour-là.
Au Dôme de Marseille.
Dôme de Marseille.
C'est immense, le Dôme de Marseille.
Mais combien, vous imaginez combien de spectateurs il y a au Dôme de Marseille ?
Je ne vais pas dire 10 000.
Plus que ça.
Plus
ouais.
D'accord.
Donc, je me retrouve ce jour-là à Faune.
Oh là là.
Et donc, le producteur me dit, Denise, il faut quand même vous montrer en scène. Si on dit, vous êtes à Faune, vous ne pouvez pas venir, ils vont croire que vous n'êtes pas venu ou que vous n'êtes pas là. J'ai dit, si, si, mais je ne peux pas parler. Alors, on m'a dit, vous mettez votre micro tout près, vous savez, puis vous chuchotez. Il passera quelque chose quand même, oui. Ils comprendront. Et je fais, j'entre. Les gens applaudissent. Je leur dis, voilà, il m'arrive, ça. Je parle doucement. Et maintenant, nous allons accueillir. Et c'est eux qui ont scandé le nom du premier.
Ils vous ont aidé.
Du premier qui est entré. Et ensuite, le producteur m'a dit, vous y allez à chaque fois, tant pis. Et chaque fois que j'entre en scène, je les voyais rire tous, hein, parce qu'ils savaient bien
vous
que je ne pouvais pas. Mais moi, ça me faisait rire aussi.
Ça vous
mais
faisait rire.
Ils riaient. Ils riaient tous. Et ils scandaient le nom de celui qui allait le... Parce qu'ils avaient le programme.
Ils avaient le programme, voilà. Donc ils savaient qui allait venir. Quel beau souvenir.
Oui, c'est un beau souvenir, ça. C'était un des souvenirs les plus extraordinaires, quand même. Parce que quand vous avez plus de 15 000 personnes, deux fois dans la journée, qui font ça... Oh, enfin, le soir, je ne sais pas. Oui, le soir, j'avais un peu mieux. J'allais un peu mieux, quand même. Mais vraiment, l'après-midi, le spectacle de l'après-midi, qui durait quand même près de 3 heures.
Et oui, avec le nombre d'artistes qui passent.
Ah oui, parce que les artistes passent, chantent, après ils peuvent rentrer à l'hôtel. Mais le présentateur ou la présentatrice reste.
Et les 3 heures.
Voilà.
Merci en tout cas.
Merci à vous.
Beaucoup, Denise.
Merci.
Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Et puis, voilà, merci Denise
merci
d'avoir
à
répondu
vous,
à quelques-unes des questions.
Merci infiniment, c'était très sympathique. Merci de votre invitation. Merci.
Un podcast à retrouver sur Mélodie Radio. À très bientôt.
Mélodie, la radio vintage forever.